Depuis la terre ferme, un beau titre pour une belle exposition riche et visuelle. Forcément, puisque c'est une exposition photo, avec aussi d'autres modes d'expression. Cette exposition s'ouvre le 19 juin à Brest. Elle va se décliner sur trois lieux très proches, le Jardin des Explorateurs, la Maison de la Fontaine et le local de la Pointe. Et c'est la photographe Julie Asquette qu'on avait rencontrée dans Ribine qui a été chargée du commissariat de cette exposition.
J'ai été invitée à concevoir cette exposition sur une invitation de Sabine Tertry qui bosse au service culture de la ville de Brest. Et comme cet été devait se tenir les fêtes nautiques, l'invitation était faite de concevoir une expo autour du monde marin. Donc avec le contexte sanitaire actuel, au final, on se retrouve sans fête nautique. Mais donc on a une exposition qui tourne autour de l'univers maritime et moi, par affinité, je pense de lecture, de choses que je regarde, je me suis trouvée donc à formuler cette idée de créer une expo autour de la frontière qui séparerait la terre de la mer. Que ce soit une frontière impalpable.
Donc le terme frontière, c'était pas innocent.
Une frontière, on peut imaginer aussi un écart, on peut imaginer un seuil ou une distance ou une limite. C'est vrai que la frontière a un peu une connotation politique qui m'intéresse pas plus que ça, là, dans ce cas précis, mais plus une manière de distinguer deux espaces.
Les photographes qui vont exposer, combien il y en a, comment ça s'est fait la sélection?
Déjà, ce qui s'est fait, c'est que moi, j'ai été invitée à concevoir une expo pour la Maison de la Fontaine, qui est donc une galerie municipale de la ville d'Brest. Mais en fait, j'ai un petit peu augmenté cette proposition en annexant aussi le Jardin des Explorateurs qui est juste à côté et le local de la Pointe qui est aussi un petit lieu juste à côté. Donc, au final, je me retrouve avec trois chapitres autour de cette thématique de la frontière entre terre et mer et donc avec une sélection d'artistes pour chaque chapitre. Donc le premier chapitre qui est à la Maison de la Fontaine compte 6 artistes. Celui qui est ensuite au local de la Pointe, c'est une expo participative pour laquelle j'ai reçu à peu près 40 dossiers et j'ai sélectionné 18 artistes. Et ensuite, il y a une exposition d'un artiste au Jardin des Explorateurs.
Les artistes sont pas forcément des professionnels d'ailleurs, ça c'est important de le dire peut-être.
Alors en ce qui concerne le local de la Pointe, c'est surtout des amateurs. Il y a quelques professionnels, mais c'est surtout des amateurs. Et sinon, pour l'expo principale qui est à la Maison de la Fontaine, là c'est vraiment des artistes confirmés. Pareil pour le Jardin des Explorateurs. Et c'est vrai que... Après, pour répondre à la question de comment je les ai choisis, c'était vraiment comment articuler aussi leur travail autour de cette idée de frontière, de monde marin. Et voilà, ça collait bien.
Ouais, il faut peut-être détailler justement les trois espaces, les trois sous-thèmes si on veut, enfin les trois façons dont se décline le thème.
Alors, à la Maison de la Fontaine, on a donc 6 artistes. C'est un espace qui est... divisé en 3 étages. Au rez-de-chaussée, il y a un tout petit espace où on pourra voir l'exposition de Lena Araguas qui tourne autour d'un livre qu'elle a réalisé qui s'appelle Nouvelles de l'Ouest, qui est un livre qui compile des lettres qu'elle a reçues de son père qui est marin, dont elle est séparée depuis sa jeune enfance et qui pendant 10 ans va lui envoyer des fragments de lettres, de livres qu'il lit, des objets depuis la mer. Donc c'est un livre qui parle d'une distance, donc forcément physique, entre un père en mer et cette jeune fille qui est à l'époque à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Et ça parle aussi d'une distance affective, d'un manque, parce que c'est quelqu'un qui s'est construit sans cette figure du père et qui a compilé cette expérience dans un livre qui est hyper beau. Donc ça, c'est au rez-de-chaussée. Ensuite, à l'étage, on a un film de Séverine Vermersch qui est lui aussi une compilation de vidéos réalisées par des marins et globalement adressées à leurs proches restés à terre pour leur transmettre des vues de mer et partager un peu leur quotidien. Donc Séverine Vermersch a rassemblé une vingtaine de réalisations faites par des marins et elle les a ensuite interrogés et invités à parler de leurs images. Donc, à mon sens, ces deux premiers boulots résonnent pas mal l'un avec l'autre pour évoquer une frontière qui serait plus de l'ordre affectif. Ensuite, on a le travail de Marc Loyon et celui d'Aurore Bagary qui, à mon sens, se répondent aussi pas mal et qui sont toujours au premier étage de la Maison de la Fontaine, qui sont plutôt des travaux liés à une manière d'arpenter les contours de territoires et de collecter des images qui diraient vraiment la frontière de manière géographique. D'un côté, avec le travail d'Aurore Bagary qui s'intéresse au canal de la Manche et à toutes les formations géologiques et la manière dont les sédiments racontent la séparation de l'Angleterre avec les côtes d'Armor, en gros toute cette côte littorale. Et le travail de Marc Loyon qui, lui, allongeait les contours administratifs de Douarnenez pour aller à la recherche de zones où l'urbain se transformerait en campagne et où la ville serait d'un coup détachée du front de mer par l'estran. Et là, dans le cadre de cette exposition, j'ai surtout sélectionné ces vues d'intérieur qui donnent sur la mer comme une manière assez poétique d'avoir cette ouverture-là en continu dans le quotidien. Ensuite, au deuxième étage de la Maison de la Fontaine, je le fais de manière assez exhaustive, hein, mais on termine sur ce deuxième étage. Il y a le travail de Mathieu Pernaud et de Nicolas Floch, qui sont, je pense aussi, un peu les artistes les plus connus peut-être de cette exposition. Le travail de Mathieu Pernaud s'appelle Ligne de mire et il a aussi été créé d'ailleurs dans les Côtes d'Armor. Et il a créé des caméras obscura à partir de bunkers en murant les ouvertures de ces bunkers et en créant une toute petite percée qui permet donc par un procédé optique à la mer de venir projeter son image inversée sur le fond du bunker. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec à peu près n'importe quel objet, hein. Faut juste connaître ce procédé optique. Et c'est vrai que dans ce travail, la question de la frontière est intéressante parce que y a un procédé d'inversion. On fait rentrer la mer dans la terre. Et puis c'est aussi quelque chose qui questionne l'œil, le fait d'être dans un dispositif de surveillance qui était le propos du mur de l'Atlantique et de ses bunkers. Et le travail de Nicolas Floch, donc pour finir, c'est tout un travail au long cours qui a été mené à la fois donc en plongeant auprès de récifs artificiels qui sont des sortes d'architectures et de villes immergées qui sont des énormes blocs de béton créés au large des côtes pour pouvoir produire une faune et une flore pour pouvoir essayer de compenser la surpêche et c'est une pratique qui est surtout faite au Japon et donc c'est vrai que Nicolas Floch a produit des images de ces blocs immergés et il a aussi créé des sculptures à échelle généralement donc au dixième qui sont dans l'espace de la galerie et donc qui recréent encore une fois une sorte de procédé d'inversion entre la terre et la mer parce qu'on a toute une sorte d'urbanisation sous-marine.
Ça, c'est la Maison de la Fontaine. Donc, on aura compris que c'est de la photo, mais ça va au-delà. Il y a de la vidéo, de la performance. C'est de l'installation, comme on dit.
Oui, mon idée, c'était aussi, à la Maison de la Fontaine, d'aller explorer la frontière de la photographie et d'avoir des travaux qui seraient plus soit éditorial, soit presque performatif, soit de l'ordre de l'installation et même donc qui aboutissent dans des sculptures.
Et alors au local de la Pointe, il y a eu un appel en fait c'est une exposition participative, c'est ça, il y a eu un appel à photographes, ils sont uniquement brestois et brestoises.
C'est ça, donc il y a eu un appel pour des photographes brestoises et brestois, sans contrainte de statut, donc qui pouvaient être amateurs, professionnels ou même pas spécialement photographes, mais qui pratiquaient la photographie, il y a des gens qui travaillent l'image, qui sont peut-être davantage des graphistes ou des éditeurs qui ont aussi contribué à cet appel. Là où c'est un peu délicat, c'est que cet appel devait être diffusé donc fin mars, début avril, et qu'on est tombé pile en plein confinement. Sachant que la thématique pour ce chapitre spécifique à l'atelier de la Pointe, c'est le port. Donc, il aurait pu être question pour les photographes d'aller faire des photos sur le port de Brest, mais comme on était confinés, c'était tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc, on a plutôt fait appel à des images d'archives ou des images préexistantes. Et donc là, on a reçu, je dis « on » parce que c'est vrai que sur ce chapitre-là, j'ai travaillé aussi étroitement avec Sabine Tortry, donc du service culture. Sur ce chapitre-là, on a reçu une quarantaine de dossiers. Et d'ailleurs, là où c'est un petit peu dommage, et bon, je me permets de le pointer parce que c'est des choses qui m'intéressent et que je remarque, mais on a reçu, je crois, 5 ou 6 dossiers de femmes, ce qui est vraiment très très peu par rapport à l'ensemble des candidatures. Donc là-dessus, on a retenu 18, si je dis pas de bêtises, hein, 18 personnes, et avec 1, 2 à 3 images par personne qui communiquent au sein d'un ensemble dans une scénographie assez, assez éclatée et qui a pour but de montrer l'aspect multifacette du port.
Et le Jardin des Explorateurs, enfin, qu'est-ce qu'on y trouvera ?
Et le Jardin des Explorateurs, donc là c'est pareil, c'est une exposition qui à la base n'était pas spécialement prévue quand on m'a invité à faire ce commissariat, mais je trouvais cette idée intéressante d'annexer le Jardin des Explorateurs parce que, comme son nom l'indique, il représente des espèces botaniques pour la plupart ramenées des expéditions scientifiques et des voyages d'exploration du 18e, notamment de l'époque de Bougainville, la Pérouse, voilà. Et j'avais envie de questionner l'idée de frontières, donc cette fois-ci de manière peut-être un peu plus politique, et notamment entre la terre et la mer, au travers de la figure de l'explorateur qui part pour créer des outils de mesure, des outils géographiques qui... quelque part annexe et s'approprie le monde à partir de ses repères, le nomme, le catégorise et donc définit ce que vont être les frontières au fur et à mesure et ce que vont être les territoires, en fait la formation des territoires. Et dans le cadre de cette réflexion, j'avais bien envie de montrer le parcours d'un réfugié qui est le voyage de Kingsley photographié par Olivier Jobard, qui avait été exposé, bon, qui a déjà été beaucoup exposé, parce que cette série date de 2004. Mais elle avait été produite par le Festival de la Gacilly, notamment en 2016, qui est une année où j'avais d'ailleurs eu moi-même mon travail photographique exposé. Et donc, je savais que ces tirages existaient dans une forme qui permettait de les montrer en extérieur. Donc, je me suis dit, tiens, on peut peut-être prolonger le propos qui est déjà à l'œuvre à la Maison de la Fontaine et au local de la Pointe, en rajoutant ce troisième chapitre au Jardin des Explorateurs et en interrogeant la mise en place de la carte, qui la dessine, qui écrit l'histoire des territoires et qui, au contraire, ne fait pas histoire, qui est quelque part victime aussi de cette carte et de ses frontières et comment est-ce qu'on pourrait... définir voilà le trajet d'un nouvel explorateur et qui serait une sorte d'anti-héros dans cette lecture de l'histoire.
Il y aura en plus des animations, alors je ne sais pas comment est-ce qu'elles vont se réaliser en fonction des conditions sanitaires, n'est-ce pas ? Mais il va y avoir plusieurs temps forts en fait qui sont prévus, alors lesquels ?
Oui, alors on devait faire un vernissage le 19 juin, qui est la date d'ouverture de l'exposition, mais en effet avec le coronavirus là ça va être un petit peu compliqué. On avait aussi prévu des signatures de livres, puisqu'il y a pas mal d'artistes qui ont édité des bouquins autour de leur travail, ce qui permettait la réalisation de rencontres avec le public, mais bon alors tout ça c'est un petit peu tombé aux oubliettes, et donc comme on avait déjà identifié le jeudi 10 septembre comme temps fort au moment du finissage des expositions, notamment avec un ciné-concert à l'Auditorium des Capucins, qui est une réactualisation ou réadaptation de Racleur d'océan d'Anita Conti, qui est un film de 1952 mis en musique par Julie Normal, qui joue des ondes Martenot, qui est un instrument assez singulier, dont il existe, je crois, à ce jour seulement 11 ondistes dans le monde, et qui est aussi mis en scène par Louise Aymon avec des textes lus du journal d'Anita Conti par Sadia Bentayeb. Voilà, donc il y avait ça, il y avait aussi trois projections commentées de Louise Aymon autour du passage de la ligne, qui est un petit rituel que font les marins lors du franchissement de la ligne, donc si je dis pas de bêtises, d'Équateur et Arctique. Donc ça, c'est ce qui était initialement prévu, avec toujours cette réserve de est-ce que ce sera possible de les maintenir, en tout cas jusqu'à présent on essaye toujours de mener ça jusqu'au bout, et donc on essaye aussi de transposer ce qui était prévu au moment du vernissage, c'est-à-dire les rencontres entre artistes et avec le public et les signatures de livres. Voilà, on espère que tout pourra avoir lieu à ce moment-là, à la fin des expos, donc début septembre, mais on navigue un peu à vue, c'est le flou le plus total.
Bon, de toute façon, on tiendra les auditeurs informés quand on saura. Alors, une petite question de déconfinement. Est-ce qu'il y a des photographes qui travaillaient pendant le confinement malgré tout? Les photographes pros, comment est-ce qu'ils pouvaient travailler, les photographes, que ce soit vous ou d'autres,
hein? Les photographes ont travaillé dans le sens où je crois que quand on est animé par la passion de l'image, on a toujours du mal à ne pas produire d'images. Donc il y a eu beaucoup de journaux de confinement d'ailleurs qu'on fleurit un peu ici et là. Moi je fais partie d'une agence, l'agence Myope, qui a tenu son propre journal de confinement. J'ai vu que d'autres agences, d'autres collectifs le faisaient aussi. Du point de vue de la création, il n'y a pas vraiment eu de mise à l'arrêt. Par contre, du point de vue professionnel, clairement les artistes auteurs ont été un peu les grands oubliés là des mesures du gouvernement. Il y a eu très peu d'aide mise en place. Moi personnellement, j'ai eu pas mal de projets annulés aussi vis-à-vis de ce confinement. C'était un peu compliqué. Je crois qu'on n'a pas arrêté de faire des images, mais par contre, pour en vivre et pour manger, c'était tout de suite un petit peu plus délicat.
Et c'est un sujet qui vous a inspiré, qui vous inspire encore, ou pas du tout? Vous aimeriez passer à autre chose?
Ça peut être inspiré, ou du moins aidé à la création, en ce que ça permettait une sorte de grande page blanche pour pas mal de gens, et ça permettait aussi d'avoir du temps à dédier à la création. Moi, autour de moi, j'ai vu autant de gens que ça paralysait que de gens qui ont trouvé un prétexte pour aller explorer leur quartier et essayer de produire des images. Moi, j'ai documenté mon quotidien, mais après, je peux pas non plus parler au nom de tout le monde, c'est vrai. J'étais aussi beaucoup sur ce commissariat d'exposition. Je crois que, en tout cas pour la profession, ça fait plus de mal que de bien.
Depuis la terre ferme, le plaisir d'une exposition nouvelle à découvrir à Brest. Donc, à la Maison de la Fontaine, au local de la Pointe et au Jardin des Explorateurs, ça commencera le 19 juin et ce sera jusqu'à la mi-septembre.